Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Il était une fois en Cornouailles » sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. Alors attention, cette semaine, nous allons rendre visite au seigneur incontestable et incontesté des légendes de Cornouailles, j'ai nommé les dragons. Et oui, il y avait des dragons en Cornouailles bretonne. Ensuite, comme d'habitude, dans une seconde partie, je raconterai une histoire improvisée grâce aux éléments que l'un ou l'une d'entre vous a envoyés à notre association via notre page Facebook. Comment se fait-il qu'il y ait des dragons dans les légendes de Cornouailles ? Cela vient sans doute de la religion celtique et de l'affrontement fratricide entre les dieux scurs, les dieux jumeaux, qu'étaient Cernunnos et Lugus, et qui passaient l'année à se combattre et à se disputer la déesse Belisama. La bataille se déclenche à l'équinoxe de printemps, où Lugus et Cernunnos s'affrontent d'abord sous la forme de différents animaux, jusqu'à prendre celle de deux dragons à Beltane, c'est-à-dire le 1er mai. Un dragon blanc pour Cernunnos et un dragon rouge pour Lugus, dans une bataille tellement violente que leur père, le dieu Sucellus, doit intervenir pour les empêcher de détruire l'univers. On retrouve la trace de ce combat dans la légende arthurienne quand Merlin fait déterrer deux dragons qui s'affrontent dans le ciel afin de laisser construire une tour à l'emplacement où ils se trouvaient. C'est sans doute pour aider le dieu Lugus que les druides celtiques allumaient des feux à Beltane, une tradition qui se christianisera plus tard avec les feux de la Saint-Jean. Finalement, Lugus et Cernunnos s'affronteront par armées interposées. Plus tard, à l'époque où la science n'expliquait pas encore le monde, les gens de Cornouailles considéraient que la péninsule armoricaine était le corps du dragon tué par Saint-Michel. Les monts d'Arrée en étaient la colonne vertébrale et le Finistère, dans son ensemble, la tête. D'où son nom breton de Penarbet, la tête du monde. Donc vous qui nous écoutez, et moi, vivons sur le corps d'un dragon, ce qui, vous l'avouerez, est quand même la grande classe. Mais est-il vraiment mort ce dragon? Pas si l'on en croit la version plus poétique qui suit de l'affrontement entre Saint-Michel et le Saurien. Il y a longtemps, à l'origine du monde, la Bretagne n'existait pas. C'est difficile à croire, mais c'est ainsi. C'était l'époque où le Créateur venait de terminer de façonner le monde, l'époque où le grand dragon primordial survolait majestueusement les flots du premier océan, dans lequel la vie commençait à peine à se développer. Le Créateur observa son œuvre et parvint finalement à la conclusion que quelque chose manquait. Certes, il y avait la terre et l'eau, mais l'eau n'était pas encore nourricière et la terre était également difficile à fertiliser. Les années puis les siècles s'écoulèrent. Les premiers hommes passaient leur temps à travailler sans prendre celui de rêver ou d'admirer la création. Ils devaient en outre sans cesse chercher à se protéger du grand dragon qui venait régulièrement détruire leur maison, leur bétail et tous les efforts qu'ils avaient faits pendant l'année pour essayer de survivre. Hélas, le merveilleux de la création était justement concentré dans cette créature extraordinaire qu'était le grand dragon. Le Créateur dut bien admettre qu'il avait fait là une erreur qu'il lui fallait corriger. Il repéra donc un homme du nom de Michael qui préférait la musique aux travaux des champs et le dota de deux grandes ailes blanches immaculées. Michael s'éleva dans les cieux tout neuf et vit à quel point la création était digne de louange. Il vit aussi les ravages que le dragon primordial provoquait partout où il passait. Ces ravages étaient renforcés par le fait qu'à son contact, les hommes avaient un bref aperçu du merveilleux de la création et que leur frustration était grande lorsqu'ils retrouvaient l'âpreté de leur vie après que le dragon soit reparti. Michael en conçut une grande tristesse. Le Créateur lui envoya alors l'inspiration pour qu'il compose la plus belle musique qui soit. Une musique qui reflèterait la beauté de la création, les cycles de la nature en cours d'élaboration, le parfum des fleurs et la majesté de l'océan. Michael prit sa harpe, s'envola et se mit à jouer. La terre répondit à son appel et les fleurs sortirent du sol, bientôt rejointes par les abeilles et les papillons. Les arbres se couvrirent de fruits qui évitèrent aux hommes de trop travailler. Le dragon primordial lui-même fut charmé par cette musique et vint l'écouter. Michael eut alors une idée. Il redescendit, puis vint s'installer au bord du monde tout en continuant de dispenser le réconfort de sa musique à ce même monde. Le dragon atterrit à ses côtés et s'allongea pour l'écouter plus confortablement. Michael ralentit le rythme de ses notes. La mélodie se fit plus lente, plus caressante. Elle s'insinua jusque dans l'esprit du grand dragon, l'invitant au repos. Un repos prometteur de rêves plus magnifiques les uns que les autres. Le dragon ne comprit pas tout de suite ce qui lui arrivait. Il essaya de résister pendant un long moment car il sentait quand même qu'il perdait le contrôle. Mais Michael continua à jouer sans se préoccuper des réactions de la créature. La musique berça le grand dragon avec une douce chaleur qui lui envahissait tout le corps. La créature finit par se rendre à l'évidence. Le sommeil qu'elle allait connaître ne pouvait pas lui faire de mal. Au contraire, elle sentit que ce serait quelque chose de positif. Alors, au bord du monde, le grand dragon se laissa aller et s'endormit. Les années passèrent, puis les siècles et les millénaires, le grand dragon dormait toujours. Les arbres poussèrent sur son dos et la lande couvrit ses écailles. Les hommes finirent par oublier que le dragon avait un jour existé et vinrent s'installer sur ce qu'ils pensaient être une nouvelle terre qui s'avançait dans la mer. Une péninsule, à laquelle ils donnèrent le nom d'Armorique. Une terre où le merveilleux semble plus présent qu'ailleurs, et pour cause, le grand dragon dort toujours. Et Michael, me direz-vous ? Eh bien, sachez que sur une des collines des Monts d'Arrée se trouve une petite chapelle qui lui est dédiée, afin de lui rappeler que, depuis l'endroit où il se trouve désormais, il doit penser à continuer de jouer de sa musique pour maintenir le grand dragon endormi. Une autre légende des origines commence à l'époque où les dragons régnaient encore sur le monde, une époque où les géants et les korrigans se battaient, et où l'homme venait à peine d'arriver en Bretagne. Les monts d'Arrée étaient alors bien plus hauts qu'ils ne le sont aujourd'hui, et la lune déterminait les jours à la place du soleil. Au milieu des monts d'Arrée, il y avait une vallée. Elle était longue et étroite, si étroite par endroits que nul n'aurait pu y passer. Et dans cette vallée où régnait la lune, comme partout dans le reste du monde, il y avait des dragons qui savaient commander aux forces de la nature. Des dragons de toutes les tailles et de toutes les couleurs, des dragons de toutes les formes. Il y avait les grands dragons rouges qui crachaient du feu, il y avait les petits dragons verts qui chantaient soir et matin, il y avait les magnifiques dragons d'argent qui traversaient la vallée comme si elle était à eux. Il y en avait tant et tant. Tous les dragons du monde vivaient là dans cette vallée que l'on appelait la vallée des dragons, bien sûr. De l'autre côté des monts d'Arrée, au sud, il y avait un royaume. Il n'était pas très grand, mais les gens qui y vivaient étaient heureux. Ils n'avaient jamais froid, jamais faim, jamais peur, parce que leur roi veillait sur eux. Ce roi-là était un grand sage, juste et bon. Il avait appris, étant jeune, le langage des dragons pour commander aux forces de la nature, et s'en était toujours servi à bon escient au profit exclusif de son peuple. Cependant, le roi était vieux, plus vieux que tous les autres hommes. Il savait qu'il ne vivrait pas éternellement, et quand il ne serait plus là, qui veillerait sur son peuple ? Il fallait quelqu'un qui soit digne d'être roi, quelqu'un de sage et de bon, et qui pourrait, lui aussi, parler avec les forces de la nature, afin de leur demander d'apporter la pluie ou le beau temps. Alors, un jour de pleine lune, où le ciel était clair et la nuit étoilée, il convoqua tous les habitants du royaume. Se dressant devant eux, il leur déclara qu'il devait choisir son successeur parmi eux, et que ce serait celui qui parviendrait à apprendre le langage des dragons. Il y avait dans l'assistance un jeune homme, appelé Alan, qui semblait porter tous les malheurs du monde sur ses épaules. Son père était parti un jour pour la chasse et n'était jamais rentré. Sa mère était alors tombée malade et se mourait de ne plus pouvoir dormir. Les médecins s'étaient déclarés impuissants. Cependant, en entendant le discours du vieux roi, Alan reprit espoir. Il alla voir Taillefer, le plus grand et le plus fort des chevaliers qui se préparaient à partir pour la vallée des dragons, et lui demanda « Puissant Taillefer, emmène-moi avec toi. »« Pourquoi ferais-je cela ? » répondit le chevalier. « Tu n'es ni grand ni fort. » « C'est vrai, mais je suis agile et rusé, je serai ton page et porterai tes armes. Tu verras que je te serai utile et que tu ne regretteras pas ma présence. En échange, la seule chose que je te demande, c'est de parler à ma mère le langage des dragons, lorsque tu l'auras appris, afin qu'elle retrouve le sommeil et puisse guérir. » Taillefer eut pitié de ce jeune homme presque orphelin. Il pensa aussi que si Alan portait une partie de ses affaires, il marcherait plus vite et arriverait le premier. Aussi, quand la lune se leva sur une nouvelle journée, Taillefer le chevalier et Alan, son nouveau page, se remirent en route. Le voyage dura longtemps, puis au matin du 300e jour, au détour d'un chemin, ils virent apparaître à leurs pieds la vallée des dragons. Alors que les montagnes environnantes étaient recouvertes de neige, c'était toujours l'été dans cette vallée. Et partout, partout, des dragons volaient et s'envolaient. Taillefer et Alan entrèrent dans la vallée, s'émerveillant à chaque pas. Des dragons de toutes sortes les entouraient et les fascinaient, eux qui n'avaient jamais vu de dragons auparavant, puisqu'il n'y en avait pas encore en dehors de la vallée. Les dragons les conduisirent à leur monarque, le grand dragon d'or. Celui-ci leur parla dans le langage des hommes. « Humains, vous êtes entrés dans notre vallée et nous voulons savoir pourquoi. »« Votre Majesté, dit Taillefer, notre roi m'a envoyé pour apprendre votre langage. » Nous n'apprenons pas la langue des dragons à n'importe qui. Il faut en être digne. Vous devrez passer les épreuves du lézard. Et si vous réussissez, nous vous apprendrons notre langage et le savoir qui guérit. On mena le chevalier et l'enfant devant un lézard noir qui habitait la vallée. L'animal était tellement vieux que sa peau ne brillait plus et que ses os saillaient partout sur son corps. Il leur expliqua ce qu'il attendait d'eux.
Vous passerez trois épreuves. Une pour la ruse, une pour la réflexion et la dernière pour le jugement. À chaque fois, votre vie sera en jeu. Acceptez-vous ?
Taillefer et Alan acquiescèrent. On les mena alors devant un large panier rempli de serpents.
Tout d'abord, vous devez retrouver dans le panier l'œuf égaré. Sachez que chaque morsure de ces serpents sera mortelle, mais cet œuf représente une vie à sauver.
Taillefer était ennuyé. Il ne voulait pas mourir, mais il lui fallait cet œuf. Voyant son désarroi, Alan lui rappela que les gantelets en métal de son armure étaient suffisamment épais pour que les crochets des serpents n'atteignent pas ses mains. Il fallait juste qu'il se montre précautionneux afin de ne pas casser l'œuf en le prenant. Le chevalier mit ses gantelets et put retrouver l'œuf dans le panier. Ensuite, le lézard noir déclara qu'il allait poser deux énigmes qu'il leur faudrait résoudre.
« Dites-moi qui je suis, moi qui peux tourner sous la lune sans jamais bouger. »«
C'est le lait, » répondit aussitôt Alan.
« Exact. Maintenant, dites-moi qui est plus rapide que le lièvre, plus rapide que la flèche, plus rapide que le vent qui souffle en tempête. »«
C'est la lumière, » dit Alan. « La lumière est la plus rapide. »«
Tu as encore raison. »
Aussi les conduisit-on pour la dernière épreuve dans une vaste clairière dans laquelle beaucoup de dragons s'étaient rassemblés. On amena alors une pie.
« Voici, dit le lézard, une pie qui s'est rendue coupable de vol et a été condamnée. Elle doit être exécutée. C'est à vous que revient la tâche de la tuer. »
Tristement mais fermement, Taillefer prit son épée, mais Alan l'arrêta. « Attendez, s'exclama-t-il, vous ne pouvez pas la tuer pour cela, c'est un oiseau et les oiseaux volent. La pie, par sa nature, vole deux fois. Elle ne peut être coupable de la façon dont la nature l'a faite. » Le vieux lézard hocha la tête.
« C'est vrai, jeune humain, les oiseaux sont faits pour voler et la pie vole deux fois de par sa nature. Tu es sage de le savoir. Toi qui as réussi nos épreuves, nous t'apprendrons le langage des dragons. Mets-toi à genoux. »
Alan s'exécuta. Le vieux lézard fit signe au grand dragon d'or qui posa sa patte droite sur la tête du jeune homme et ce dernier sut instantanément le langage des dragons. Il rentra ensuite avec Taillefer, un peu déçu mais beau joueur, et décida de guérir sa mère en lui racontant son aventure. La femme eut d'abord peur a posteriori de tout ce que son fils avait enduré, puis elle se détendit et une douce chaleur lui enveloppa les pieds qui remonta ensuite dans ses jambes. Ses paupières devinrent si lourdes qu'elle ne put les garder levées. Alors, elle les baissa en souriant et se laissa glisser dans un profond sommeil peuplé de rêves, où son fils, qui connaissait maintenant le langage des dragons, succédait au vieux roi pour la plus grande joie de tous les gens du royaume. Voilà une bien belle histoire avec plein de dragons différents, mais en Cornouailles légendaire, il faut bien le dire, les dragons étaient essentiellement de deux sortes. Aériens d'abord, car l'on considérait que les vents étaient des dragons qui habitaient dans des châteaux au-dessus des nuages. Lorsqu'un paysan soulevait sa faux en pleine tempête, il n'était pas rare de voir tomber des écailles ou une griffe. De plus, quand un bateau était pris par un tourbillon dans la mer, on disait qu'il avait été pris par la queue du dragon. La couleur de ces dragons des vents variait avec leur direction d'origine. Les dragons vents du sud étaient jaune-orange ou dorés, ceux de l'ouest étaient bleus, ceux de l'est étaient verts et ceux du nord étaient blancs. Il y avait ensuite des dragons maritimes. Ces dragons aquatiques apparaissent dans la légende de la ville d'Is, dont la princesse magicienne Dahu demande à l'océan de lui donner des dragons. Un par famille de sa ville, dont la mission serait d'aller couler les navires au large et d'en ramener la cargaison afin que les gens d'Is n'aient pas à travailler. En échange, elle promit un sacrifice humain à l'océan par dragon qu'il lui donnerait. L'océan lui en donna 1000, faisant d'Is la cité aux 1000 dragons. Un autre dragon aquatique apparaît aussi dans la légende de la fondation de l'abbaye de Daoulas. Vers 550, ayant appris que les supérieurs des monastères de Cornouailles, dont Saint-Jaoua, s'étaient réunis non loin de ces terres pour conférer ensemble, un seigneur païen du Fou se fit accompagner d'une bande de soldats et enfonça les portes de l'église où se trouvaient les tenants de la nouvelle religion. Saint-Adec, ou Tudec, fut massacré sur l'autel. Saint-Judulus eut la tête tranchée au moment où il s'enfuyait vers l'an des Vénèques. Jaoua fut assez heureux pour pouvoir regagner sain et sauf Braspar. Cependant, Dieu vengea ses serviteurs. Un dragon horrible sortit de la mer et ravagea le bourg du Fou, puis de ses environs. Le Seigneur devint la proie d'un esprit malin et il fallut toute la puissance de saint Paul, évêque du Léon, pour vaincre le monstre et guérir le meurtrier. Celui-ci, devenu chrétien en réparation de son crime, fonda le monastère de Daoulas, ou encore monastère des deux plaies, des deux douleurs, au lieu même où saint Judulus avait été assassiné par lui. Écoutez maintenant l'histoire de deux grands tueurs de dragons cornouaillais. J'ai nommé les chevaliers Néventer et Derien. Alors qu'ils revenaient d'Israël et se dirigeaient vers Brest pour embarquer vers la Grande-Bretagne, Néventer et Derien, deux chevaliers, furent arrêtés sur le passage de la rivière Elorne qui marque la frontière nord de la Cornouaille historique. À l'époque, cette rivière s'appelait Dourdoune, ce qui signifiait « eau profonde ». Depuis un pont enjambant la rivière, les deux guerriers aperçurent un homme se jeter du haut des murailles d'un château dans la rivière. Ils se précipitèrent dans l'eau pour le sauver et apprirent par sa bouche qu'il s'agissait du seigneur Elorne, qui voulait mettre fin à ses jours car il refusait de donner son fils unique, Rioc, en sacrifice à un dragon terrorisant la région, malgré les ordres dans ce sens du roi Bristoc de Brest. Néventer et Derien lui promirent de s'occuper du dragon s'il promettait, lui, de se convertir à la religion chrétienne. Une fois la chose faite, les deux guerriers se rendirent à la caverne du dragon qu'ils prièrent de sortir. La bête apparut aussitôt et poussa des sifflements épouvantables. Couverte d'écailles, elle était longue de 5 toises, environ 10 mètres, et sa gueule ouverte pouvait gober une brebis entière d'un seul coup. Derien s'approcha et fit le signe de croix. La bête se laissa faire. Il l'emmena alors à Brest et la fit se jeter dans la mer. Elorne se convertit et laissa son nom à la rivière dans laquelle il avait voulu mettre fin à ses jours. Son fils Rioc s'établira comme ermite près de Camaret sur la presqu'île de Crozon et y restera 41 ans avant de rejoindre Gwénolet en son abbaye de Landévennec pour l'aider à prier pour la ville d'Is. Mais ceci est une autre histoire. À Morgade, près de Crozon, si l'on met une plume de poule et une plume de coq rouge et noir dans un bol de lait, on obtient vite un petit lézard blanc à 8 pattes. Mais personne n'ose le faire car ce petit lézard est insatiable et devient vite un dragon que l'on ne peut plus contrôler. Enfin, dans la région d'Erguet-Gabric, près de Quimper, les gorges du Stangala doivent leur nom à Alice de Griffonnaise, dame noble du XVe siècle. Le patronyme et le toponyme font référence au griffon, mais il est néanmoins question d'un dragon qui hantait les gorges du Stangala. Il fut combattu et terrassé par le chevalier Casnevet de Carfort. La vallée retrouva ensuite sa quiétude jusqu'à l'arrivée de Saint-Alard, poursuivi par les infidèles. Le saint aurait donné son nom au Stangala, ou Stang-Alard, qui signifie en breton « l'étang de Saint-Alard ». Recommandant son âme à Dieu, il sauta dans le vide et d'un bond franchit la vallée. Saint-Alard aurait laissé son empreinte dans un rocher à proximité du village de Landual.
Faites dans la vie de la Rochelle, belle Madeleine, Madeleine, Madeleine.
Faites dans la vie de la Rochelle,
belle Madeleine, Madeleine, Madeleine. Il y a trois Madeleine, Madeleine, Lira, trois jolies demoiselles.
Il y a trois Madeleine, Madeleine, Lira,
trois jolies demoiselles. Il y a trois jolies demoiselles, belle Madeleine, Madeleine, Madeleine.
Il y a trois jolies demoiselles,
belle Madeleine, Madeleine, Madeleine. La plus jeune Madeleine, Madeleine, Lira, elle est la plus belle.
La plus jeune Madeleine, Madeleine, Lira,
elle est la plus belle. La plus jeune, elle est la plus belle, belle Madeleine, Madeleine, Madeleine.
La plus jeune, elle est la plus belle,
belle Madeleine, Madeleine, Madeleine. Elle se coiffe Madeleine, Madeleine, Lira, sans miroir ni peigne.
Elle se coiffe Madeleine, Madeleine, Lira, sans miroir ni peigne.
Elle se coiffe sans miroir ni peigne, belle Madeleine, Madeleine, Madeleine.
Elle se coiffe sans miroir ni peigne,
belle Madeleine, Madeleine, Madeleine. Son galant Madeleine, Madeleine, Lira, il est auprès d'elle.
Son galant Madeleine, Madeleine, Lira,
il est auprès d'elle. Madeleine Lira, je vous trouve belle.
Oh mamie, Madeleine, Madeleine Lira, je vous trouve belle.
Oh mamie, je vous trouve belle, belle Madeleine, Madeleine Lira.
Oh mamie, je vous trouve belle,
belle Madeleine, Madeleine, Madeleine Lira. La beauté Madeleine, Madeleine Lira, à quoi nous sert-elle?
La beauté Madeleine, Madeleine Lira,
à quoi nous sert-elle? La beauté à quoi nous sert-elle? Belle Madeleine, Madeleine Lira.
La beauté à quoi nous sert-elle? Belle Madeleine,
Madeleine Lira. C'est allée Madeleine, Madeleine Lira, pourrie sous la terre.
C'est allée Madeleine, Madeleine Lira, pourrie sous la terre.
C'est allée pourrie sous la terre, belle Madeleine, Madeleine Lira.
C'est allée pourrie sous la terre,
belle Madeleine, Madeleine Lira. Comme aussi Madeleine, Madeleine Lira, celles qui sont belles.
Comme aussi Madeleine, Madeleine Lira,
celles qui sont belles. La 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 la.
Merci d'être resté avec nous. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter a été créée à partir des éléments envoyés par Eric sur notre page Facebook. Et ces éléments étaient un paysan, un dragon, un chevalier, une princesse et une sorcière. Il était une fois, à l'époque où il y en avait encore, un pauvre paysan qui voulait devenir chevalier et parcourir le monde à la recherche d'exploits à accomplir. Il avait sans doute aussi dans l'idée de découvrir quelques trésors afin de faire fortune, mais cela n'apparaissait pas clairement dans ses motivations. Tout le monde savait qu'un chevalier se devait d'avoir une armure, sinon sa durée de vie était courte. Notre paysan décida donc de s'en fabriquer une avec des morceaux d'écorce d'arbre, car c'était tout ce qu'il avait à sa disposition. Il monta ensuite sur son vieux cheval et se dirigea droit vers la forêt de Huelgoat, réputée pour être enchantée. Il ne tarda pas à y rencontrer des cornicanèdes, ces lutins cornus des bois chevauchant renards, lèvres et blaireaux, et qui s'arrangeaient pour vous garder sur le bon chemin en soufflant dans un petit corps qu'il portait en bandoulière. Il ne le faisait pas par bonté d'âme, mais pour ne pas que vous vous perdiez et passiez trop de temps dans la forêt. moins ils voyaient les humains et mieux ils se portaient. Ce n'est donc pas d'un bon œil qu'ils virent arriver le paysan et son armure d'écorce sur son vieux cheval. « Pique ta monture, lui disent-ils, tu es sur le bon chemin et mieux vaut sortir au plus vite de la forêt pour ne pas y faire de mauvaises rencontres. » « Et s'il me plaît à moi de prendre tout mon temps, répondit le paysan, vous semblez bien pressé de me voir partir. »« En effet, tu n'es pas le bienvenu ici, va-t'en, répondirent les lutins. » « Eh bien, moi, j'ai plutôt envie de rester et de me construire une cabane au contraire. Les lieux ont l'air accueillants et vous n'avez pas les moyens de me faire partir. » « Dans ce cas, reprirent les petites créatures, tâchons de trouver un arrangement. Qu'es-tu venu chercher ?»« Un exploit à accomplir pour me permettre de devenir chevalier, » répondit le paysan. « Ah, nous ne pouvons pas te faire devenir chevalier, mais nous pouvons te donner une épée magique qui te sera bien utile dans ce but. Et nous connaissons un endroit où il y a un exploit à accomplir. En échange, tu déguerpis. Qu'en penses-tu »« L'affaire est faite, topez-la. » Ils topèrent. Les cornicanèdes allèrent chercher l'épée magique et lui remirent. Ils lui indiquèrent ensuite un chemin qu'il devait suivre pour accomplir le destin qu'il s'était choisi. Le pauvre paysan prit la direction qu'on lui indiquait et ne tarda pas à arriver en lisière de la forêt devant un champ au milieu duquel se trouvait un donjon. En haut de ce donjon, à l'unique fenêtre, une princesse accoudée appelait au secours tandis qu'en bas, une vieille sorcière lui lançait des pommes de pin avec un lance-pierre pour essayer de la faire taire. Le paysan donna des coups de talon dans les flancs de son vieux cheval pour le lancer au galop, mais il n'obtint qu'un trot pas très convaincu. Voyant arriver ce drôle d'équipage, la sorcière éclata de rire. La princesse, le voyant à son tour, commença à récriminer. « Quoi ? C'est ça mon sauveur ? Mais de qui se moque-t-on ? Passe ton chemin, maraud ! Va nu-pied ! Laisse donc ta place à un vrai chevalier ! De quoi aurais-je l'air avec un sauveur ainsi accoutré ?» Mais le paysan voulait vraiment devenir chevalier, et un chevalier, ça affronte les sorcières pour libérer les princesses retenues prisonnières. Alors, il sortit son épée magique et redonna des coups de talon dans les flancs de son vieux cheval qui, au lieu de partir au galop, se cabra et le fit tomber avant d'aller brouter un peu plus loin. La sorcière éclata de rire encore plus fort, puis se transforma en un dragon noir et menaçant. Le paysan se relève et, malgré ses fesses endolories, se lance à l'attaque en courant. Plusieurs fois, il manque de tomber en se prenant les jambes dans les plaques d'écorce qui lui servent d'armure, mais vaille que vaille, il combat la sorcière, la blesse et parvient à la vaincre. Cette dernière redevient humaine et, reconnaissant sa défaite, le laisse pénétrer dans le donjon. Le paysan commence à gravir l'escalier monumental qui doit l'amener à la pièce de la princesse. Depuis le haut de la rampe, cette dernière l'admoneste. « Dépêche-toi donc, mais c'est pas possible de voir ça, qui c'est qui m'a foutu un empoté pareil ?» Cette fois, le paysan en a assez. Il préfère redescendre, et voyant la sorcière blessée assise au pied du mur, il la prend en pitié et la soigne. Puis, mu par une inspiration soudaine, il lui demande si avec tous ses pouvoirs, elle pouvait devenir une belle jeune fille. « Bien sûr, dit-elle, et de lui montrer aussitôt. » Le paysan lui proposa alors de devenir sa femme, quitte à ce qu'il ne devienne jamais chevalier. La sorcière accepte, car il l'a quand même bien fait rire. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, comme on dit, pour terminer une histoire qui finit bien. Et la princesse, me direz-vous ? Elle doit être encore en train d'attendre son prétendant dans son donjon, à moins qu'elle n'ait décidé de descendre le grand escalier et de rentrer chez elle, puisqu'après tout, plus personne ne la gardait prisonnière. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui qui sentait un peu le roussi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles », 26 minutes en terre des fées rien que pour vous avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Kenavo, Avéchal.